Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp derrière le micro, je vous parle en ce 13 mars. Alors que, c'est ça, date limite des transactions est passée. La dernière ligne droite qui s'amorce pour la majorité des équipes, celles qui sont à la course aux séries éliminatoires, mais pour d'autres, c'est un peu une zone où on va poursuivre sur la construction. C'est le cas des Canadiens de Montréal. On va parler beaucoup des Canadiens aujourd'hui à la tasse de café. Surtout hier, il y avait la visite des Blue Jackets de Columbus et ça a permis de voir un peu ce qui va être la nouvelle réalité, c'est-à-dire Caden Primo devant le filet plus souvent avec Samuel Montembeau. On parle de tout ça aujourd'hui. On va parler de Joshua Roy, Juraj Slafkovský. On va parler des Blue Jackets aussi. On en a profité de leur visite pour poser quelques questions à l'entraîneur Pascal Vincent. Quand on a un entraîneur qui parle français, on en profite. On va parler de ce qui s'en vient chez les Canadiens et pour les prochains jours. Et on va aussi parler de quelques espoirs, autant chez les Canadiens, quelques espoirs, mais aussi à travers la Ligue nationale de hockey, à travers et même des joueurs qui pourraient être repêchés. On vous en parle de deux aujourd'hui, Zachary Lheureux et Mathias Melovski. Avant de commencer tout ça, je vous dis, si vous nous écoutez directement sur le site web de LNH.com, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Vous faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Le balado qui est maintenant disponible toutes les semaines, donc chaque mercredi, on a un nouvel épisode, donc suivez-nous, manquez rien. Suivez-nous sur les réseaux sociaux LNH, LNH barre de soulignement FR sur X et sur Instagram. Alors, on lance cette émission. J'ai mes deux invités avec moi. Tout d'abord, Guillaume Lepage. Comment tu vas, Guillaume?
Ça va bien, toi, Nick?
Ça va très bien, Guillaume. Et Jean-François Chaumont, comment tu vas, Jeff?
Très bien, très bien.
Les gars, on se lance. Les Canadiens, je veux pas dire nouvelle ère, là, parce que ça serait un peu péteux. Là. Ça serait un peu fort comme terme, mais c'est une nouvelle réalité chez les Canadiens. Puis on l'a vu dans les deux derniers jours, c'est-à-dire le début de ce duo-là, Samuel Montembeau, Caden Primo. Techniquement, Montembeau est plus si jeune que ça, mais on le considère tous encore comme un jeune gardien vu le niveau d'expérience qu'il a dans la LNH. Hier, Caden Primo qui a impressionné, grosse performance de 41 arrêts contre les Blue Jackets de Columbus. Comment on vit ça, là, ce début d'ère-là chez le tricolore?
C'est la fin du mariage à trois gardiens. Ouais. Disons que ça a été beaucoup plus long qu'anticipé. Pour les entraînements, c'est maintenant beaucoup plus simple. Techniquement, sur une glace, il y a juste deux filets. Donc, ça reste le même principe. Maintenant, Montembeau et Primo peuvent se partager le travail dans les entraînements. Hier mardi soir au Centre Bell, c'était une belle soirée pour Caden Primo, jeune gardien de 24 ans, 41 arrêts contre les Blue Jackets de Columbus. Puis en fin de match, un petit mardi soir contre les Blue Jackets, là, tu le sais, Nicolas, Guillaume, c'est pas le match le plus sexy. Mais hier, on a fini par avoir un petit peu d'ambiance avec des chants de Primo, Primo, Primo en fin de rencontre. Il y avait le gros sourire au visage. Il faut savoir qu'Eden Primo est quand même timide, réservé comme personne, mais il a été très touché de voir la réaction des partisans, de voir qu'on scandait son nom au Centre Bell. Il disait qu'il avait déjà vécu ça à Northeastern. Il avait déjà vécu le même phénomène avec le Rocket de Laval. Mais quand c'est devant 21 000 partisans, ça prend une ampleur un petit peu plus importante. Donc, Primo était très, très, très content de sa performance. Puis pour lui aussi, c'était important de connaître un bon départ à son premier match depuis le départ de Jake Allen. Puis disons qu'il n'a pas déçu face aux Blue Jackets.
C'est toujours un beau moment, je trouve, quand les joueurs, la première étoile du match se retrouve au centre de la glace avec Marc Denis après la présentation des étoiles. Hier, ça a donné lieu encore à un beau moment. Tu sais, Marc Denis lui a posé la première question, tu sais, c'est quoi tes sentiments d'entendre ton nom? Il dit, c'est incroyable. Puis là, la foule a embarqué pour une autre ovation de quelques secondes. Puis on sentait qu'il savourait, là, tu sais, c'est un gardien quand même qui, depuis quelques années, essayait de faire sa place, puis il y avait toujours des gardiens devant lui dans la hiérarchie. Là, se retrouve finalement avec une place de régulier au sein de cette équipe-là. Puis il répond avec une performance comme hier soir. Il méritait tous les applaudissements qu'il a reçus hier.
Ce qui est comique aussi, on entendait des primos partout dans un gradin. Mais même au banc du Canadien, tantôt, je parlais avec Juraj Slafkovský, puis Juraj me disait que son gros sourire, qu'il criait lui aussi « Primo, Primo, Primo », assis au banc avec Cole Caulfield. Les deux s'amusaient à crier le nom du gardien. Donc, c'est enfantin, mais dans une saison où il y a eu plus de mauvaises que de bonnes nouvelles, c'est une petite bouffée d'air frais. Puis, je disais tantôt que Primo est timide, réservé. Hier, là, il a dû rester un bon 15 minutes dans le vestiaire à parler aux médias. Puis on dirait qu'aussitôt que les Kodak partent, il recommence à respirer. Il disait qu'il aime mieux
être dans... le sens s'en vont, là, tu veux dire,
pas ils s'allument. Une fois que les Kodak ont assez de... Bon, ils ont leur bonne clip, là, pour reprendre dans le jargon. Ils vont partir, puis là, c'était juste les journalistes de la presse écrite. Et Primo niaisait avec son sac là, de lavage. Il était un petit peu nerveux, on le sentait inconfortable. Mais une fois que les caméras se sont fermées, recommençait à respirer, il disait que c'est quelqu'un qui aime plus l'ombre à la lumière. Hier, disons qu'il y avait beaucoup de lumière sur Kellen Primo. Puis il disait que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui aime mieux écouter que parler. Donc, on peut rapidement faire un petit portrait du personnage. Là. C'est pas, on est loin de piquer Souban, mettons, à ces belles années à Montréal.
Mais c'est sûr aussi que c'était pas facile, la situation. Au fil de sa carrière, il y a eu des hauts et des bas ou des réalités différentes qu'il a dû faire face. Un des gardiens, bon, on se souvient comment il avait performé au championnat junior, mais ça restait un joueur de choix de septième ronde. Choisi très tardivement, arrive dans l'organisation, donc entre avec quand même... À ce moment-là, on se disait, ben, c'est peut-être le gardien d'avenir. Ça a été long faire ce chemin-là. Cette année, tu n'es pas souvent devant les buts non plus. Donc, tu te demandes, est-ce que mon développement va finir par payer le prix? Et là, tout se règle. Parce que c'est ça, là, c'est tout vient de se régler pour lui. Il lui reste juste... Maintenant, il contrôle sa destinée, on pourrait dire, là, dans son cas. Ça doit lui faire beaucoup de bien, ça.
Puis ça, on parle beaucoup récemment avec le Canadien du travail mental que les joueurs font. On a parlé avec Yoel Armia qui a fait affaire avec le préparateur mental, je pense, du Canadien cette année. Kellen Primo aussi a mis les efforts de ce point de vue-là. Puis il en a parlé récemment, là, qu'il a vraiment consulté un psychologue sportif et tout ça. Puis il a vraiment travaillé sur l'aspect mental. Puis ça, je suis convaincu, dans une situation de ménage à trois, où tu as un départ ou deux, trois semaines, c'est certain que ça l'a aidé à rester focus. Puis il nous dit, depuis que Allen a changé d'adresse, à chaque fois qu'on lui pose la question, ah, ça doit être plus facile, ça doit être mieux un peu ton histoire. Puis il dit pour moi, il n'y a rien qui change. C'est la même mentalité, c'est le même travail que j'ai à faire chaque jour pour justement, tu sais, arriver à être la meilleure version de moi-même. Puis ça, c'est, je sais pas si c'est une affaire de goalers là, qui ouais, sont dans leur tête, puis qui sont vraiment concentrés, qui voient la lumière au bout du tunnel, puis qui font tout pour y arriver. Mais j'aime cette mentalité-là. On dirait qu'il n'y a rien qui peut venir de l'extérieur l'affecter comme ça.
Comme disait Reggie Dunlap, toi, goaler, vous êtes de même.
C'est un peu des ça. Bébites, hein? Des bébites.
Un gardien, c'est un gardien. Ça vient avec une réalité... psychologique un peu différente.
Je suis curieux de voir, par contre, c'est au volume aussi qu'on va peut-être avoir une meilleure réponse par rapport à Kellen Primo dans la Ligue nationale. Ouais. Cette année, c'est quand même seulement 15 matchs. Son taux d'efficacité est très intéressant à 910 avec une équipe en reconstruction. Il a montré de bons moments. Puis tantôt, on parlait aussi de la rotation avec les trois gardiens. Autant Primo que Montembeau, il faut quand même être honnête et le dire, ils ont été chanceux de compter sur un Jake Allen. C'était pas un vétéran qui avait les dents longues et qui voulait absolument tasser le plus jeune. Allen, oui, il connaissait une saison difficile, mais c'est quelqu'un d'intelligent, de généreux, puis il était assez brillant pour donner son temps puis de servir pratiquement de deuxième entraîneur des gardiens aux deux autres jeunes.
Oui, et je me demandais, Primo, est-ce qu'il parle un peu, je veux dire, il vient d'une famille de hockey, là, son père c'est Keith, il y a des oncles, là, Wayne Primo a joué dans la Ligue nationale aussi. Est-ce qu'on sent une influence de sa famille sur sa manière d'agir ou pas vraiment, ça revient pas dans le discours?
Il va en parler de temps en temps. Keith Primo peut venir faire son tour une fois de temps en temps à Montréal, mais c'est pas quelque chose qui revient. Il a grandi dans un environnement de hockey. D'ailleurs, quand je lui parlais du tournoi Pee-Wee de Québec, Primo a joué le tournoi Pee-Wee. Il dit que, bon, quand tu as 12-13 ans, tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves avec des caméras dans le vestiaire. Mais il dit, maintenant que le recul, je comprends. Il jouait avec le fils de Daniel Brière, un des fils de Keith Hatcher, un des fils de Darian Hatcher, le garçon de John Leclerc. Donc, il y avait plusieurs anciens Flyers de Philadelphie dans la petite équipe des Flyers.
Bon, club boosté.
Bon, apparemment, moi, je n'ai pas eu la chance de couvrir Keith Primo, mais j'en jasais ce matin avec le collègue François Gagnon. Puis il me disait que Keith était également très timide, très réservé. Okay. C'est pas quelqu'un qui prenait beaucoup de place dans un vestiaire, faisait son travail sur la glace. Donc...
Sur la glace, par contre, c'était d'autres choses. Là.
Non, sur la glace, c'est il était ça, intimidant, hein? Il frappait, il était gros. Mais possiblement que Fiston a la même mentalité. Il est assez tranquille.
J'ai ri parce que je lisais les commentaires un peu, puis il y a quelqu'un qui a dit hier, avec la performance de David Savard, finalement, le trio de gardiens est de retour à Montréal parce qu'il a bloqué cette lancée.
J'ai pensé à ça. Je finissais d'écrire mon texte, puis j'ai dit j'aurais dû l'idée comme ça. Le ménage à trois est de retour, là, parce que David Savard veut aussi sa part d'arrêt là, dans un match.
Mais une performance comme ça, ça en dit beaucoup d'un leader qui ne voulait pas partir à la date limite des transactions.
Ah ouais, puis... Moi, ce qui m'a marqué, on en parle souvent là, après les matchs, là, des tirs bloqués de David Savard. Ça, c'est un sujet qui revient quand même assez souvent là, après les rencontres. Mais hier, Caden Gooley, il a vraiment pris le temps de répondre à la question. Puis il dit pour nous, pour moi personnellement, puis pour toute la brigade, la jeune brigade, c'est un exemple inestimable à regarder. Là. Le gars, il a une bague de la Coupe Stanley, il a 33 ans. Il y aurait toutes les raisons du monde de dire « Bon, regarde, on est éliminé de la course aux séries. » Oui, il y a des chances mathématiques, là, mais on s'entend qu'il n'y a plus de chance. Il pourrait lever le pied un peu, puis il ne le fait pas. Il sacrifie son corps comme si tous les points étaient aussi importants qu'au jour 1 de la saison. Ça, c'est impressionnant à voir. Puis je pense que, justement, ça vient démontrer, on en parlait dans les derniers podcasts, de la valeur de David Savard dans le vestiaire. On disait que c'était peut-être un peu intangible, mais hier, on a eu un bon exemple de concret de voir la part de ce défenseur-là là, dans cette équipe.
Martin Saint-Louis en parlait aujourd'hui. Pour lui, comme entraîneur, c'est les mêmes mots que John Tortorella. Bloquer des tirs, c'est non négociable. Puis avec David Savard, tu n'as pas besoin de lui enseigner ou de lui demander. Ça fait vraiment partie de son ADN. Mais c'en est un qui tenait à rester à Montréal. Au lendemain de la date limite des transactions, samedi, il nous confiait qu'à 15h, son téléphone a sonné. C'est son père qui l'a appelé, qui était juste content que le coup de 15h venait d'arriver, que ça signifiait que David Savard prolongeait son séjour à Montréal. Mais lui, quand il a vu le téléphone sonner, il avait peur de voir le nom de Kent Hughes et de Jeff Gorton. Il y a un sentiment d'amour pour Montréal. C'est la même chose pour Mike Matheson. Puis on parle de deux défenseurs qui sont bons avec les plus jeunes. Donc, tôt ou tard, tu as besoin de les garder pour avoir un encadrement qui se tient au sein de l'équipe. Puis on utilise toujours bâtir une culture. David Savard, ce n'est pas celui qui va finir l'année avec 50 points pour un défenseur, mais pour définir une culture, c'est un très, très bon modèle pour tous les coéquipiers.
Tu parles de modèle, justement. On revient sur les jeunes joueurs. Joshua Roy, il est revenu dans les discussions hier. Tu as parlé, c'est GF, c'est toi qui as parlé. Sur ce qui s'en vient pour lui pour le reste de la saison. Il se retrouve dans une situation où il ne joue pas énormément à Montréal, mais gagne de l'expérience de la Ligue nationale de hockey contre des adversaires de la Ligue nationale de hockey. Mais de l'autre côté, il y a le Rocket de Laval où on veut être des séries éliminatoires, on veut entrer en force si ça fonctionne, où il est un leader. C'est deux types d'expériences différentes pour un développement d'un joueur. Lui, il voit ça comment? Les entraîneurs voient ça comment? Là, surtout après le match d'hier aussi, là.
Hier, Joshua parlait plus en cliché. Il disait qu'il va profiter de chaque jour qu'il peut passer au sein d'un vestiaire de la Ligue nationale de hockey. Mais il a quand même déjà 20 matchs derrière la cravate. Puis honnêtement, il était à sa place. Oui, on parle d'un rôle un petit peu plus limité, peut-être une douzaine de minutes de temps de jeu par rencontre. Mais il patine quand même au sein d'un deuxième trio avec Alex Newhook au centre, Yoel Armia du côté droit. Donc, on parle de responsabilité quand même importante pour un jeune de 20 ans, fait face à de bons défenseurs de l'équipe adverse. Puis Roy, honnêtement, se débrouille bien, autant offensivement que défensivement. Il sait, par contre, que tôt ou tard, il devra prendre la route de Laval. Ça va commencer à chauffer pour le Rocket si on souhaite participer aux séries. Puis c'est certain que les ajouts de Joshua Roy, éventuellement, probablement Jaden Struble également, donnerait un gros coup de pouce à l'équipe de Jean-François Houle si on veut s'assurer d'une place en série.
Ouais, puis le Rocket en ce moment est à 3 points là, de la 5e place dans la division Nord. Donc, les Marlies sont devant, ont 2 matchs de plus à disputer. Là, donc, on voit que la situation est déjà assez critique là, du côté de Laval. Donc, je pense que. Est-ce que ça va dépendre du retour de certains blessés à Montréal? Puis on va prendre la décision de renvoyer Joshua Roy ou est-ce qu'on a une date limite? Ça, les dirigeants n'ont pas voulu vraiment s'avancer là, dans les derniers jours.
Dans une situation comme ça, est-ce qu'on pourrait rappeler des joueurs de Laval qui vont avoir un impact moins important sur tes performances, sur la victoire en haut, mais qui vont peut-être le retour de Joshua Roy dans la Ligue américaine viendrait compenser ça un peu. Tu sais, quelques joueurs, des joueurs là, qui, des one-hit wonder, là, des joueurs qui sont venus jouer un match ici et là dans la LNH.
C'est un scénario qui reste plausible. Tu pourrais voir un Lucas Condotta, par exemple, avant un Brandon Gignac, si tu veux absolument garder un moteur offensif qui est Brandon Gignac pour le Rocket. Mais pour l'instant, l'équation n'est pas nécessaire parce qu'il y a toujours un attaquant de trop. Jesse Elonen, dernièrement, est celui qui regarde les matchs de la passerelle de Price. Face aux Blue Jackets de Columbus, c'était Jordan Harris. Parfois, c'est Jonathan Kovacevic qui saute son tour. Donc, tant et si longtemps que tu es à 7 et 13, tu peux te permettre de mieux respirer. Roy, il le sait qu'il va retourner du côté du Rocket tôt ou tard, mais il ne le voit pas comme un désaveu. Au contraire, c'est un peu comme Raphaël Harvey-Pinard l'an dernier. On lui avait confié le mandat d'aller finir la saison avec le Rocket. Puis Harvey Pinard avait connu de gros matchs dans la Ligue américaine, confirmant la place du Rocket également en série.
Ces séries-là pour le Rocket, je trouve que ce serait important que l'équipe participe aux séries parce qu'on a potentiellement David Reinbacher qui va s'amener avec l'équipe d'ici la fin de la saison. On a peut-être un Lane Hudson qui va faire le saut. Donc, oui, OK, on peut leur donner quelques matchs à Montréal en fin de saison juste pour voir de quel bois ils se chauffent, mais de leur donner de l'expérience de série dès leur arrivée dans l'organisation, je pense que ce serait vraiment bénéfique pour leur développement. Puis c'est probablement ce que le Canadien, la direction du Canadien espère aussi.
Encore plus de l'expérience nord-américaine dans le Corinne Bauer.
Exact.
Oui, exactement. JF, chaque mois, tu parles avec Juraj Slafkovský. Tu t'assois avec lui pour le texte, le blog de Juraj. Donc, j'allais dire la recrue pas vrai. C'est parce qu'il faisait aussi quand il était recrue, mais bon, ça s'est terminé plus court comme
deuxième
comme
année
saison l'année dernière. Là. Donc, il est de retour. Là, bon, tu lui as parlé. Le texte va être en ligne demain, après-demain?
Probablement, on vise jeudi. Donc, à l'écriture aujourd'hui, mais l'entrevue est canée. Pour reprendre une expression du milieu. Puis c'est toujours le fun de s'asseoir.
Non, mais j'allais dire, donc là tu es en primeur. Là. Le balado en primeur.
Ouais.
Là,
c'est juste allez. Pour toi, Nick.
En grande primeur.
Ah, grande primeur. Manque juste un peu de son. Tout. OK. Vas-y, JF. Comment il voit les derniers, le dernier mois? Là, c'est au mois. Là, donc, comment il a vécu le dernier mois?
Oui, mais Juraj, il reste très orgueilleux. Quand on lui parle de ses statistiques personnelles, ses 14 buts en ce moment, 65 matchs, puis du tac au tac, il répond « c'est pas assez ». C'est pas assez bon au niveau de la Ligue nationale. Je voudrais en marquer plus. Veut continuer d'être une menace offensive. Il est heureux, par contre, de sa progression. Ça, il insiste pour dire que c'est important. Il voit cette année, à sa deuxième saison, se sent plus confortable, plus confiant sur la glace, repère mieux ses coéquipiers, mais il aimerait avoir encore plus de chiffres. C'est bon. C'est symptomatique de tous les grands joueurs. Ils en veulent tout le temps plus. Je ne dis pas que Juraj est arrivé à l'étape d'un grand joueur, pas ça du tout, mais il est sur la bonne voie. Disons qu'il est sur le bon chemin. Hier, à la période d'échauffement, face aux Blue Jackets de Columbus, j'ai remarqué Juraj Slafkovský qui s'est amusé à lancer une rondelle à la fin de la période d'échauffement. Souvent, les joueurs vont lancer des rondelles pour des partisans, mais lui, il ciblait vraiment un joueur, des partisans de façon précise. Il avait remarqué trois Slovaques d'un gradin. Il n'était pas trop subtil non plus. Il y avait un drapeau de la Slovaquie, puis ils portaient tous des chandails de Juraj Slafkovský. Slafkovský disait en riant, non, je ne les connaissais pas, mais quand je vois des jeunes qui partent de chez moi, de la Slovaquie, qui voyagent jusqu'en Amérique du Nord pour venir voir un match de la Ligue nationale, mais si je peux leur offrir un petit cadeau, une expérience de plus en redonnant une rondelle, et je le fais avec grand bonheur. Parler aussi de comment se passe la vie de tous les jours à Montréal, se faire connaître à l'épicerie, se faire connaître quand il marche dans les rues de Montréal, mais vit très bien cette réalité-là. Il nous dit que c'est probablement deux ou trois fois pire en Slovaquie. On ne comprend pas l'ampleur de Juraj Slafkovský au niveau de chez lui, s'il marche dans les rues de Košice ou de Bratislava, pas faire beaucoup de mètres sans se faire reconnaître ou de prendre de photos.
OK, c'est intéressant quand même parce que la Slovaquie a quand même connu une grosse baisse au niveau de ses performances au niveau international. Donc, je me demandais la popularité du hockey au pays est à quel niveau. Donc, visiblement.
Mais c'est un premier de classe aussi. C'est une première au niveau de la Slovaquie. Donc, on suit attentivement Juraj Slafkovský. Puis, même ce matin, petite anecdote, on a un journaliste européen, Zdenek Matejovski.
Oui, Zdenek.
Qui suit pratiquement pas à pas Juraj Slafkovský. Puis, il me montrait. Aujourd'hui, le bulletin de nouvelles à Bratislava, la troisième manchette, pas un bulletin de sport, bulletin de nouvelles. Troisième manchette, c'est Juraj Slafkovský qui a marqué hier contre les Blue Jackets de Columbus. Puis Zdenek devait prendre congé pour ce match contre Columbus parce que c'était pas le rendez-vous le plus palpitant. Mais quand Slafkovský a marqué en première période, ben, il a sorti ses moyennes fesses du divan puis il a roulé de Chambly jusqu'au Centre Bell pour s'assurer d'être présent dans le vestiaire pour avoir les citations de Juraj Slafkovský après le match.
Zdenek, c'est un personnage fascinant parce que vous le connaissez plus que moi un peu. Là. Ce qu'on appelle un freelancer, un pigiste. Pas pigiste, là, mais...
Ouais, pigiste,
ça serait le terme. Bon, ben, c'est un pigiste et... Avec lui dans ses bagages, bon, il a sa caméra, micro, tout ça, mais il y a les embouts de micro avec les identifications des chaînes en Europe, de tout ça. C'est fou de voir à quel point il se retourne, justement, comme tu viens de dire, se retourner sur un 10 cents pour aller chercher une entrevue avec, hop, avec un Finlandais, hop, avec un Allemand, un Slovaque, un peu importe. C'est une réalité qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord parce que, bon, les Québécois qui jouent au hockey, si t'es pas dans la LNH, habituellement, tu retiens moins l'attention. Là.
Puis il parle six ou sept langues.
Ben, c'est ça.
Exact. Six ou sept langues. Il y a autant de têtes de micro là, que de langues qui parlent. Donc, il y a des soirées plus payantes que d'autres pour Zdenek. Là. Quand on le voit changer de tête de micro, ça veut dire que c'est bon pour lui. Mais non, c'est tout un personnage. C'est assez impressionnant de le voir aller.
En parlant d'hier, vous avez, je ne vais pas dire de la visite, mais il y avait quelqu'un d'intéressant sur la galerie de presse. Le docteur du tir, le docteur du lancer.
On l'a surnommé en français le médecin du tir parce qu'on ne voulait pas qu'il sache qu'on parle de lui parce qu'il était vraiment littéralement... à côté de nous pendant tout le match. Donc, on le surnommait le médecin du tir, mais c'était vraiment intéressant de premièrement le voir. S'il se promène au centre-ville de Montréal, je ne suis pas sûr que vous allez vous douter qu'il a travaillé avec des Pasternak, des Bergeron, les joueurs du Canadien non plus. Là, il avait son track suit, il ressemblait un peu à un entraîneur de hockey mineur, il regardait le match avec des chips et son coke sur la passerelle. Mais il était vraiment impliqué dans le match. Là. Quand Slafkovský a marqué, parce qu'on sait que Slafkovský a passé plusieurs heures sur la patinoire à travailler avec lui, quand il a touché la cible en avantage numérique, il a donné un coup de joie là, sur la table. Puis on sentait qu'il était fier de nous dire « Ah, j'ai travaillé avec Matheson ce matin. » Puis il est un peu moins fier quand Matheson l'a mis dans Bévitré, environ 4 pieds en haut du filet, là, dans un avantage numérique en troisième période. Mais on voit qu'il prend son travail à cœur, puis je pense que ça donne des résultats aussi là, sur la glace. On l'a vu avec Slafkovský, à partir du moment où il s'est mis à travailler, ben, décocher plus de tirs, puis il a marqué plus de buts aussi. Là.
Mais ouais, le hasard a bien fait les choses aussi. Tantôt, quand je m'entretenais avec Juraj Slafkovský, j'ai parlé à Juraj pendant l'entraînement du Canadien. Slafkovský, depuis quelques jours, saute des entraînements. De petits bobos, rien de trop grave, mais Dr. Schott, qui est Glenn Tucker de son vrai nom, lui sortait de la glace. Il avait travaillé en matinée avec Jordan Harris. Puis les deux se sont croisés dans le corridor. Puis je peux vous dire qu'il était encore aussi heureux que mardi soir sur une passerelle de presse. Il dit, Jean-François pourrait témoigner. Il dit, quand tu as marqué hier, il dit, je tapais sur le comptoir, j'étais vraiment heureux. Il dit, je pouvais pas sauter sur la glace pour te faire un câlin, mais il dit, c'était mon équivalent dans les hauteurs du Centre Bell. Puis Slafkovský avait un gros sourire, puis il disait en riant, je continue de travailler sur mon tir, puis je vais finir par en marquer encore plus. Donc, il y a une complicité qui se développe. Il y a beaucoup de joueurs du Canadien qui disent, Joshua Roy est un des clients réguliers, Caden Gooley, Jordan Harris, Slafkovský. Mais pour eux, c'est du temps d'entraînement gratuit. Tu as un entraîneur d'habileté qui est présent, qui se déplace, payé par le Canadien, mais ceux qui veulent en profiter seraient fous de ne pas le faire.
Est-ce que Cole Caulfield devrait bientôt avoir rendez-vous avec le toubib de la salve?
On a pensé à lui demander hier sur la galerie de presse, mais c'est quand même un dossier un peu épineux.
Mais là il a deux buts en 17 matchs. Je sais qu'il a été questionné un peu
blanchi,
ce matin.
Blanchi à ses 11 derniers, je crois.
En plus, bon, vois-tu.
Blanchi de la colonne des buts, là, parce qu'au moins, tu sais, je veux dire, il compense en préparant des jeux, en amassant des aides. Mais oui, tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est un couteau à double tranchant. Cole Caulfield a marqué des buts toute sa carrière. Je veux dire, on peut pas lui reprocher son tir ou je veux dire, il sait comment ça fonctionne. Donc, est-ce que de travailler avec quelqu'un qui va aller changer un peu sa technique ou apporter certaines modifications, est-ce que ça va le mêler plus que ça va l'aider? Ça, je pense que c'est une question qui se pose. Dans le cas de Caulfield, on peut, c'est plus un naturel qu'un Slavkovski ouais. ou qu'un Matheson, qu'un Gouli.
L'approche ne peut pas être la même, là.
C'est ça, je ne sais pas exactement ouais. comment il fonctionne, là, le Dr. Schott, mais...
Non, mais c'est intéressant comme débat. Caulfield, c'est bel et bien 11 matchs sans but, mais c'est un marqueur naturel. C'est partout ça. Où Cole Caulfield a joué, qu'est-ce qui fait sa renommée, c'est qu'il marque des buts. Puis pour avoir parlé avec Joshua Roy, il disait que c'est pas facile quand tu travailles avec le médecin du tir parce qu'on te demande de changer un petit peu ta mécanique, de changer tes habitudes. Joshua Roy disait en riant, je lance des rondelles depuis, probablement, il essayait de faire le calcul, il y a 20 ans. Donc, il dit peut-être depuis 18 ans, 17 ans, j'ai toujours tiré de façon pas mal avec mes instincts sans me poser de questions.
Mécanique, oui, c'est ça.
Mécanique, là, du jour au lendemain, on te demande de travailler sur ta mécanique. Ça me fait un peu penser, Caulfield me fait un peu penser au baseball, au match des étoiles, quand vient le temps de concours, le concours des circuits. Il y a plusieurs gros canons qui aiment mieux sauter cette étape, ne veulent pas y participer parce qu'ils ne veulent pas toucher à leur élan ou changer, modifier moindrement leur élan. Est-ce que c'est la même approche avec Caulfield? Est-ce que c'est par superstition qu'il choisit de ne pas le faire pour l'instant? Mais c'est possible. Là. Dr. Schott, Glenn Tucker, il est à Montréal régulièrement. Probablement moins dans les prochains jours. Le Canadien part dans l'Ouest pratiquement 2 semaines. Donc, on va un petit peu moins le voir dans l'environnement CH.
Messieurs, bon, on parlait des Blue Jackets plus tôt. Ils étaient à Montréal hier. C'est une équipe qui, c'est pas... La saison a commencé tout croche. Ça s'est poursuivi par la suite. Bon, avec le congédiement de Mike Babcock avant que ça commence. Pascal Vincent s'amène. Ça n'a pas vraiment levé. Les joueurs qu'on s'attendait à des résultats, ça a pas été là. Ils n'ont pas été au rendez-vous. Jarmo Kekäläinen a été congédié de son poste de directeur général il y a un mois. On ne lui a pas voulu opérer visiblement à la date limite des transactions où on allait être vendeur. Judd Davidson, qui a pris la relève comme il était déjà président, devient directeur général. Depuis ce temps-là, bon, l'équipe joue pour 500, là, 6-7-2 là, environ. Vous en avez parlé avec Pascal Vincent. Comment on vit ces moments-là, Pascal Vincent, alors que la progression... Lui tente... Puis j'y avais parlé avant... il me semble que j'y ai parlé avant le début de la saison. Pas sur le balado. J'avais parlé à Jean-Luc Grandpierre, c'est ça, qui est l'analyste des matchs des Blue Jackets. Bon, Vincent tente de mettre en place des choses, c'est quand même un entraîneur qui est exigeant, mais ça prend du temps à arriver, ça prend du temps à changer la culture de cette organisation-là. Comment tu vis ça de voir que, oui, les efforts sont peut-être là, lui il dit qu'il voit les joueurs sont dans le bateau, mais les résultats sont pas là.
Ben, je pense que c'est un peu le même débat que ce qu'on voit avec le Canadien. C'est quand même une jeune équipe. Là. On regarde le noyau de cette équipe-là. Il y a des Adam Fantilli qui était blessé, qui n'a pas pris part au match d'hier. Cole Sillinger, on a des Yegor Chinakov. C'est vraiment un noyau de jeunes joueurs qui apprend quand même les rudiments de la Ligue nationale en ce moment. Donc, quand Pascal Vincent essaie d'amener des modifications, des trucs ça, ça se passe, c'est un apprentissage pour tout le monde. Puis je pense que c'est un peu ce à quoi sont confrontés les Blue Jackets en ce moment. C'est similaire à ce qui se passe à Montréal. Puis c'est le temps qui va faire les choses. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, moi, hier, dans le vestiaire du Canadien, parce qu'on s'entend, là, le Canadien a gagné 3-0 ce match-là, mais les Blue Jackets ont dominé les 55 dernières minutes de jeu. On vantait le système offensif des Blue Jackets. Ça a vraiment compliqué la tâche des défenseurs du Canadien. On parlait d'une attaque de cirque, là, circus offense, dans le sens où on bouge beaucoup dans le haut de la zone, on force la défensive à s'adapter, à changer de côté. Ça peut mêler les joueurs, ça. Puis je pense que c'est un des aspects sur lesquels Pascal Vincent a insisté. Puis visiblement, ça montre des résultats, mais peut-être pas hier au chapitre début, on a vu Primo se dresser devant leurs attaques. Là, mais honnêtement, probablement 9 matchs sur 10 là, dans cette situation-là, les Blue Jackets seraient sortis avec la victoire hier.
Mais mardi matin, quand on lui parlait de son avenir, Pascal Vincent a assez d'expérience pour comprendre qu'il se retrouve dans un siège sans être éjectable, disons une chaise dangereuse. Il sait très bien que le prochain DG à Columbus pourrait vouloir amener ses hommes de confiance. Est-ce qu'on va miser sur le même groupe d'entraîneurs? Pascal Vincent travaille présentement avec Mark Richey, entre autres. Est-ce qu'ils seront de retour l'an prochain? On ne le sait pas, ça va dépendre. Mais ça reste une équipe en reconstruction. Vincent fait quand même du bon travail. Mais si tu voulais lancer un entraîneur recru, entraîneur en chef, on doit s'entendre, je pense que tu ne pouvais pas plus le lancer dans Fosse aux Lions qu'à Columbus. Là. Avant même le premier match, il y a l'histoire de Mike Babcock qui prend énormément de place. Plus tard dans la saison, le congédiement de Jarmo Kekäläinen. Vincent, début de saison, voulait passer son message. Il a laissé certains joueurs d'expérience dans les gradins. Donc, c'était pas facile, mais il disait qu'il a appris énormément. Il a quand même travaillé longtemps avec Paul Maurice à Winnipeg. C'est un coach de métier, c'est un coach d'expérience. Oui. D'expérience. Je pense pas que ça l'empêche de dormir, mais il a l'honnêteté de dire que c'est une situation qui est quand même précaire. Puis il y a beaucoup d'incertitudes à Columbus.
Ben oui, c'est ça. Sa sécurité d'emploi ne veut pas. Tu y penses beaucoup, mais en même temps, faut pas que tu opères avec ça. Faut pas que tes décisions aillent en ce sens. Lui, il doit vendre le plan qu'il est en train de travailler pour l'an prochain, pour mettre les bases en... Les bases, de toute façon, je veux dire, à Columbus, on veut finir le plus bas possible au classement. Je veux dire, sans le dire, bien évidemment, les joueurs vont vraiment jamais jouer pour perdre, mais c'est aussi ça la réalité. T'as pas intérêt à soudainement partir sur une séquence de 10 victoires consécutives. Là.
Ça, ils le diront pas, mais un coach détesterait pas coach avoir 10 victoires d'affilée parce que lui, ça lui apporte des arguments supplémentaires quand viendra le temps de regarder sa propre situation. Mais Nick, ce que tu disais hier, Pascal Vincent mentionnait, si tu travailles fort, c'est un cliché. On dirait qu'il reprenait pratiquement les mots de Martin Saint-Louis, mais il dit, ça me sert à rien là, de commencer à stresser sur mon propre sort. Je vais travailler fort. Je vais essayer de guider cette équipe-là dans la bonne direction. Si on travaille de la bonne façon, bien, les bonnes choses vont arriver. Donc, il espère que le prochain DG va regarder en sa direction plutôt qu'un autre entraîneur. Mais il y a quand même de très bons entraîneurs aussi sur le marché. Je peux penser à Craig Berube qui a perdu son poste cette année du côté de Saint-Louis, Jay Woodcroft du côté des Oilers d'Edmonton. Il va y avoir des loups qui vont regarder pour un nouvel emploi là, dans pas longtemps.
On parle, on tourne une page sur le passé, on y va vers le futur maintenant. Les Bruins de Boston qui s'amènent à Montréal jeudi. Bon, un match canadien-Boston, c'est toujours très intéressant. Les Bruins qui, après avoir connu un très, très bon début de saison, on a ralenti quelque peu. On a perdu beaucoup de matchs en prolongation. Vois-tu, depuis le 10 janvier, là, on a une fiche de 6 victoires, 4 défaites, 6 victoires en prolongation, 6 défaites plutôt. Prolongation fusillade, on marque beaucoup moins, l'avantage numérique fonctionne beaucoup moins, on accorde plus de buts. Bon, c'est ça la réalité. À un moment donné, David Pastrnak ne peut pas tout faire, puis on a des joueurs qui... La ligne de centre n'a pas été améliorée à la date limite des transactions. Les Bruins, bon, est-ce que c'est encore une équipe qui est parmi l'élite de la LNH quand on regarde tout ce qui s'est passé à la suite de la date limite des transactions?
Ben, c'est certain que quand tu compares à certaines équipes de l'Ouest là, qui ont vraiment fait le plein à la date limite des transactions, on peut se poser des questions sur la profondeur des Bruins. Quand, si on en vient à un affrontement contre une équipe de l'Ouest ou même si tu regardes les Panthers, ça peut être un défi assez imposant pour les Bruins. Mais je veux dire, les Bruins ont... À force de douter de cette équipe-là, on a comme appris à ne plus le faire là, dans les deux dernières saisons.
Ouais, c'est ça le problème, ouais, c'est ça.
On pensait que c'était terminé, puis là, ils ne seront pas capables de survivre à la perte de Krejci, de Bergeron, tout ça. Finalement, ils l'ont fait. Peut-être que c'est une question de, tu sais, sur une longue saison, c'est certain que ça ne peut pas toujours aller la pédale au plancher puis avoir des résultats parfaits à tous les matchs. C'est peut-être un petit peu de fatigue, puis tu sais, tu regardes les équipes championnes ou les équipes qui gagnent en série, on dirait qu'ils passent toutes par ce petit bout-là là, en saison. On dirait qu'ils savent se pacer là, en bon français, là, trouver un certain rythme. Puis quand ça se met à glisser, ben, on ramène les choses puis on continue à avancer. C'est pas quelque chose qui m'inquiéterait du côté des Bruins, mais c'est certain que oui, ils vont souhaiter terminer fort là, dans les 10-15 derniers matchs de la saison.
Mais moi aussi, j'ai appris à ne plus parier contre les Bruins de Boston. Mmh. On dirait que la culture est tellement forte du côté des Bruins. Avant, c'était Bruce Cassidy. Avant, c'était Claude Julien. Maintenant, c'est Jim Montgomery. L'équipe passe en premier. sur papier, je ne crois pas que les Bruins représentent une puissance de la Ligue nationale de hockey, à l'exception de McAvoy, Pastrnak, Marchand, le duo de gardiens. Swayman, Ullmark est probablement un des bons duos de la Ligue nationale, oui, si ce n'est pas le meilleur. Mm-hmm. Mais Jim Montgomery a touché au bon bouton. Puis cette année, on a peut-être choisi l'approche différente. On a choisi un petit peu plus de sagesse à la date limite des transactions. L'an dernier, les Bruins avaient réussi deux coups d'éclat avec Dmitri Orlov, avec Tyler Bertuzzi, mais finalement, une défaite en 7 au premier tour des séries contre les Panthers de la Floride. Si on regarde le classement, demain matin, on aurait droit à un duel Boston-Toronto. Malgré la quantité de joueurs étoiles à Toronto, si j'avais un vieux 2$ à parier, je choisirais les Bruins demain matin.
Ben, tu regardes devant le filet, je pense que la question se pose même pas. Là, si tu compares les deux équipes, on n'est pas rendu là, mais il faudrait aussi souligner que...
À sa défense, vu que tu es en train de le planter, mais Ilya Samsonov, ça va très bien pour lui présentement. Là. À sa défense,
oui, mais j'ai pas été très impressionné, disons, samedi. Là. Oui, il a fait les arrêts, mais c'est pas il affiche pas la confiance d'un Swayman ou d'un Ullmark devant le filet. Il faudrait aussi souligner que Pat Maroon est maintenant un membre des Bruins de Boston. Ça rime habituellement avec la Coupe Stanley.
Exactement. Mais c'est intéressant, tu parlais d'adversité en saison. La dernière équipe qui a gagné le trophée du président et la Coupe Stanley dans la même année, c'est les Blackhawks de Chicago en 2013. Donc,
ça fait longtemps.
Terminer premier au classement, là, ça assure absolument de rien en séries éliminatoires. Après le match contre Boston, bon, t'en parlais un petit peu, JF, les Canadiens qui s'en vont pour le fameux périple dans l'Ouest canadien. Flames de Calgary samedi, les Oilers mardi prochain et les Canucks de Vancouver le jeudi suivant, le 21. Ça va peut-être être un peu plus facile contre les Canucks que prévu parce que Thatcher Demko là, qui est blessé pour quelques semaines, il faudra surveiller cette situation-là. Les Canucks là, qui ont de l'avance au classement vont avoir peut-être quelque peu piqué du nez à la suite de cette absence-là, mais on dit qu'il va être de retour pour les séries éliminatoires. Match intéressant, je pense que le plus intéressant va être contre les Oilers. Connor McDavid et toute sa bande, c'est toujours intéressant de voir ça. Deuxièmement, le match est à 21h. On n'a pas à se coucher trop tard. Tu sais, 22h, là, parfois, c'est un peu plus difficile. Surtout, c'est quoi? C'est Los Angeles, que c'est tout le temps à 10h30 le soir. Là, c'est plus, moins ouais, le fun
Los
un
Angeles,
peu.
Los Angeles, San Jose, Anaheim, c'est pas pour les couches tôt.
c'est moins le fun un peu. Mais tu as parlé avec Vincent Desharnais, qui est un défenseur des Oilers. Tu y as parlé récemment. C'est un joueur qui, lentement mais sûrement... premièrement... Le fait qu'il est dans la Ligue nationale, c'est déjà une surprise quand on regarde le parcours qu'il a suivi. Il a eu des hauts, il a eu des bas, parfois manque un peu de constance, mais il progresse cette année. Il y a une progression intéressante de la part de Desharnais. Tu y avais parlé lors de la visite, là, c'était dans le coin du Super Bowl, mais j'entends
non, même... Non, entrevue téléphonique il y a quelques jours.
Les Oilers étaient à Montréal, c'est ça, exactement.
J'y avais parlé aussi à Montréal.
Exact.
Bon, mais tu y parles souvent.
Ben, c'est un des...
C'est un bon client.
C'est un bon client, gentil garçon, colosse garçon aussi.
Oui.
Mais lui, cette saison, déjà, c'est une victoire de gagner un poste à temps plein avec les Oilers d'Edmonton. Il dit que maintenant, quand il rentre dans le vestiaire des Oilers, il n'a plus la crainte de regarder le tableau et de ne pas retrouver son nom. Donc, il a sa place dans le top 6 des Oilers d'Edmonton. A joué à 95% du temps cette saison avec Brett Kulak. Kulak a quand même un petit peu plus d'expérience. C'est un défenseur, un bon coup de patin, Kulak. Desharnais, lui, prend les missions défensives, des avantages numériques, bloque des tirs. Puis, ce qu'il trouve présentement à Edmonton, c'est qu'un peu tout le monde a vraiment son rôle. Oui, on parle de McDavid, on parle de Leon Draisaitl, on va parler de Ryan Nugent-Hopkins ou Zach Hyman. Mais dans la chambre, dans le vestiaire, quand je bloque un tir, c'est aussi reconnu que McDavid qui déjoue trois gars avant de marquer. Il dit souvent, le premier à venir me féliciter après un gros tir bloquant des avantages numériques, c'est Connor McDavid quand je rentre au banc. Il dit, il y a une belle ambiance, puis c'est une équipe, quand on parle d'arriver aux séries, peut-être au bon moment, depuis le départ de Jay Woodcroft, sous les ordres de Chris Knobloch, les Oilers ne perdent pas souvent. C'est une équipe qui pourrait arriver au premier tour des séries débordante de confiance.
Et qui joue particulièrement bien défensivement par rapport à ce qu'on a vu dans les dernières années. Là.
Mais c'est le tournant du côté des Oilers. On va peut-être accepter de ne pas en marquer 5 ou 6, mais de gagner 3-1, de gagner 3-2. Puis ils ont, Ken Holland a quand même bien travaillé l'an dernier avec l'ajout de Mathias Ekholm. Cette année, on ajoute Adam Henrik. Henrik peut jouer au centre, peut jouer à l'aile, a de l'expérience. On ajoute du papier sablé avec Sam Carrick qui va venir jouer au sein d'un quatrième trio. Il y a le bon vieux Corey Perry qui renaît avec les Oilers d'Edmonton. Donc, on a peut-être enfin le mélange d'ingrédients pour réussir à faire un long bout de chemin en série. Moi, c'est une équipe qui me fait penser à l'Avalanche du Colorado. Nathan MacKinnon, il a eu à détester perdre, à être fâché d'être éliminé en série pour finalement y aller jusqu'au bout il y a 2 ans. Est-ce qu'on pourrait revoir le même scénario avec McDavid, Draisaitl? Pour moi, il n'y a rien d'impossible.
Je pense que la clé, ça va être devant le filet. Stuart Skinner, en début de saison, en a arraché beaucoup. Mais depuis ce temps-là, c'est quand même bien repris. Puis c'est un gardien qui...
J'allais dire qu'il en a arraché en même temps que tout le monde en arrachait. Là. C'est ça qui est le pire. Là. C'est,
ouais, exact.
Le point tournant de la saison, il est assez clair à cibler là, pour tout le monde à Edmonton.
Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est la défensive qui jouait mal devant? Est-ce que c'est le gardien? Je pense qu'il y avait un peu des deux. Là, des
un travail
fois,
d'équipe.
Ouais, c'est ça. Ils faisaient tout leur possible pour...
Pour perdre.
Exact. Mais... Honnêtement, tu regardes ses stats récemment, ça va bien de son côté. 12 matchs d'expérience en série dans la Ligue nationale, ça n'avait pas été fameux. Là, tu regardes 3,68 de moyenne, 883 de taux d'efficacité. Je pense que c'est le point d'interrogation. Stuart Skinner en série, derrière une équipe qui aspire vraiment aux grands honneurs, ça va être, selon moi, le point à surveiller parce que aux autres positions, bon, on peut se questionner sur la défensive, sur la profondeur et tout ça, mais je pense que, comme tu disais, le mélange semble assez bon là, du côté d'Edmonton cette année.
Oui, puis tu regardes, Ken Holland n'a pas été chercher un adjoint d'expérience. Il a peut-être magasiné, mais n'a pas été en chercher un adjoint d'expérience pour être derrière Skinner. Donc, la confiance, elle est en Skinner à 100%. Là.
Ouais, puis Calvin n'est pas Pickard des Verts non plus.
Oh, t'as aimé mon jeu de mots sur.
Guillaume.
Guillaume.
Non, Nicolas, c'est moi qui. C'est moi qui ai fait le jeu de mots sur le site de la LNH ce week-end. Dans mes toutes autres tâches connexes, j'ai jeu de mots. J'ai Guy Mongrain qu'on salue comme autre tâche connexe. En terminant le balado, les gars, surtout Guillaume, parce que Guillaume, on le sait, t'es notre spécialiste espoir du côté des espoirs de la LNH, des espoirs en vue des prochains repêchages, des joueurs qui sont dans la Ligue américaine, qui ont été repêchés. T'as parlé dernièrement avec Bradley Nadeau, entre autres, qui était un choix de première ronde par les Hurricanes de la Caroline.
Ouais.
On peut lire ça sur le site web. Mais il y a deux de tes entrevues que les gens peuvent lire sur le site de la LNH que t'as parlé, puis je veux qu'on en discute un petit peu. Tout d'abord, Zachary Lheureux. Ceux qui se souviennent de Zachary Lheureux, les Moussets d'Halifax, on le décrivait comme une peste à l'époque. Ça n'a pas changé maintenant qu'il est dans la Ligue américaine. Il est avec les Admirals de Milwaukee. Il a 39 points en 50 matchs, 144 grosses minutes de punition aussi. Donc, le style de jeu n'a pas changé. Mais est-ce que l'homme, lui, a changé maintenant qu'il est chez les professionnels?
Je pense que le contexte autour de Zachary Lheureux a changé dans le sens où, dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, il y avait une cible sur son dos.
Mm-hmm.
Peu importe le petit geste déplacé qu'il ferait. T'sais, la ligne était très, 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 très mince pour lui dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, compte tenu de son historique et tout ça. Là, change de ligue, arrive contre des hommes, donc c'est peut-être un peu plus de latitude côté physique, côté... peut-être que les arbitres en tolèrent un peu plus.
Il y en a une couple de pas fins dans la Ligue américaine aussi. Là, t'es pas tout
exact.
Seul,
c'est ça. C'est pas la seule peste, tandis que dans le hockey junior majeur, c'était pas mal. Zachary Lheureux, le bad boy de cette ligue-là, au nombre de matchs de suspension qu'il y a eu, ça n'a pas été évident dans les dernières années. Mais là, c'est ça. On dirait que c'est un nouveau départ. Il y a le même style de jeu, mais je pense que c'est ça. L'environnement est différent, puis ça lui permet peut-être plus de s'assumer dans son rôle de peste, puis de jouer avec ça. En plus, il est bien encadré, il est dans l'organisation des prédateurs, il sait exactement les attentes de l'organisation, que l'organisation a envers lui. Donc, ça lui permet de rester un peu plus dans la boîte sans trop dépasser les limites. Puis, tu sais, pour vrai, ça va très bien pour lui. 39 points en 49 matchs, 15 buts.
50 dans matchs la Ligue maintenant. Québécoise.
50 matchs.
50 dans, matchs avec celui d'hier. Là.
dans cette ligue-là, qui n'est pas une ligue qui est reconnue pour les joueurs, pour que les joueurs ramassent des points à la pelletée, c'est quand même impressionnant de constater que dès sa première saison, un impact comme ça au niveau offensif.
Un double impact même, qu'on pourrait dire.
Ouais, c'est ça.
Robustesse, des points aussi, mais si tu veux atteindre la Ligue nationale, il faut que tu sois très bon dans certains départements. Si tu es juste moyen partout, ben, tu vas peut-être plafonner puis rester au niveau de la Ligue américaine. L'Heureux a toujours eu cet élément-là, petite peste, jeu physique, etc. Les Prédateurs de Nashville l'aimaient beaucoup aussi au repêchage. Ils ont transigé, question de s'avancer, s'assurer de le repêcher. Oui, pouvait être vu comme le bad boy, le mauvais garçon, comme disait Guillaume dans la JMQ. Mais moi, on m'a déjà dit que tu ne gagnes pas non plus la Coupe Stanley juste avec des enfants de cœur. Des fois, tu as besoin de mauvais garnement dans un vestiaire de la Ligue nationale de hockey.
Il n'a pas encore eu sa chance dans la Ligue nationale cette année. Bon, les Predators, somme toute, là, on a été quand même en santé cette année. Tu as discuté avec Sébastien Bordeleau, l'entraîneur de développement là, du côté de Nashville. Bordeleau, bon, a joué avec les Canadiens, a joué avec Nashville, quelques équipes dans la Ligue nationale. Les gens qui nous écoutent en Suisse, vous le connaissez aussi, il a joué à Berne pendant longtemps, là, est une des vedettes du club, là, des légendes du club, si je peux dire. Est-ce qu'on... On voit comment son développement et est-ce que justement on décide de d'essayer de le laisser à sa première saison professionnelle un maximum de temps dans la Ligue américaine? Prends ton temps, gagne ton rythme. On verra ça au prochain camp d'entraînement.
Mais c'est ça, je lui demandais, est-ce qu'il y avait un plan pour l'Heureux? On sait qu'il y a des organisations qui, dès le début de la saison, disent à leurs espoirs, tu passes la saison dans la Ligue américaine, n'attends pas le téléphone, tu développes, tu prends ton temps, tu mets les efforts, mais l'Heureux de son côté a dit le message dès le premier jour, c'était si vous faites le travail, vous allez avoir votre chance. Puis là, je pense que c'est, comme tu l'as dit, je pense que c'est contextuel. Pas de blessés, l'équipe va bien, on est dans le portrait des séries pour l'instant. Ça devrait être bon pour participer aux séries. Donc, la chance. Elle viendra peut-être, mais Zachary Lheureux n'attend pas après ça. Il y a du plaisir à Milwaukee. C'est une équipe aussi qui a des grandes aspirations au printemps, qui vient d'aligner 19 victoires consécutives il n'y a pas si longtemps. Donc,
c'est beaucoup. Hein, c'est...
Pas 19. Ouais, c'était... Pas
19? Oui, c'est 19.
Ah, les Admirals.
Non, ouais.
Les Prédateurs ont également eu une longue séquence de victoires. On était à 8 du côté des Prédateurs.
Ça va bien dans l'organisation d'en haut en bas.
Ouais, exact. Donc s'ils ne participent pas aux séries, s'ils ne jouent pas de match dans la Ligue nationale d'ici la fin de la saison ou en série, ben, ils vont continuer de prendre de l'expérience dans la Ligue américaine. Mais Sébastien Bordeleau me disait, tu sais, son nom ressort beaucoup. Le matin que je lui ai parlé, il avait parlé avec David Poyle, qui est maintenant un conseiller senior là, avec les Prédateurs. Puis il disait, son nom est revenu, puis tout le monde est content, les rapports sont bons. Puis il dit, s'il y a un rappel éventuellement, ça devrait être le premier nom sur la liste. Donc, ça va être à surveiller d'ici la fin de la saison. Mais un gars comme Zachary Lheureux, en séries éliminatoires, ça peut être intéressant aussi.
Mais c'est une équipe qui, historiquement, aime voir les gros espoirs passer du temps du côté de Milwaukee. Les Admirals de Milwaukee ont une bonne équipe, généralement, dans la Ligue américaine. C'est assez rare que les jeunes, à 20 ans, très tôt, débarquent du côté de Nashville. Poyle avait cette philosophie, un peu empruntée des Red Wings à Détroit, qu'il n'y a pas de mal à jouer 80-150 matchs dans la Ligue américaine. C'est seulement de l'expérience en banque. L'Heureux, son tour va venir. Il va finir par jouer en Ligue nationale, probablement plus la saison prochaine que cette année.
Et on n'est tous pas surpris de voir que David Poyle, même s'il est à la retraite, entre guillemets, s'intéresse quand même aux espoirs de la Ligue américaine de l'équipe. Hein?
Ouais, quand Sébastien m'a dit ça, j'ai comme eu un petit recul. Je n'étais pas certain s'il parlait du même Poyle, mais c'est le seul Poyle qui est dans l'organisation, qui est encore au courant de comment les espoirs... progresse, donc on peut pas enlever le hockey de l'homme, comme on dit.
Non, exactement. L'autre espoir qu'on veut parler, c'est un espoir du Drakkar de Bécomo, un attaquant, Mathias Melowski. Lui, c'est très différent parce que lui, il vient d'être ignoré au repêchage deux fois. Il a 19 ans. C'est un Tchèque qui en est à sa deuxième saison à Bécomo. Il a 59 points en 51 matchs cette année. Au niveau physique, 6 pieds, 183 livres, donc c'est pas un problème de taille. Et là, à sa saison de 19 ans...
C'est 6 pieds 2, 190, oui. Je crois. Il y avait une erreur.
Le pire, c'est que je m'étais mis une note en lisant ton texte que ça ne fitait pas. Là. Donc,
il y a eu une mise à jour.
Une mise à jour, bon, voilà. Mais là, à sa saison de 19 ans, soudainement, il se met à apparaître sur les listes des patineurs nord-américains. Il est présentement 82e sur la liste du Bureau central de dépistage. Il y en a des joueurs qui arrivent tardivement comme ça. Est-ce qu'à ton avis, son nom, pas à ton avis, mais selon ce qu'on te dit, son nom revient de plus en plus dans les conversations comme une belle surprise possible?
Oui, exact. Tu sais, je parlais avec Jean-François Grégoire, l'entraîneur du Drakkar. Je lui parlais à propos de Jules Boilard, les frères Boilard et tout ça. Puis souvent, au cours de la conversation, le nom de Melovski est revenu. Puis vers la fin de l'entretien, je lui ai lancé une question sur Melovski. Puis là, je l'ai senti sourire. Tu sais, on dirait que c'est peut-être son agenda aussi. Il voulait m'en parler, là, mais il a vraiment dit c'est le joueur le plus... Un des joueurs de grand talent les plus méconnus dans la ligue. Là. Il dit son impact avec le Drakkar. On parle beaucoup des Justin Gill, des Justin Poirier, des Boilard et tout ça. Mais Mathias Melovski est au centre du premier trio depuis à peu près le début de la saison. On regarde ses statistiques, 59 points, 17 buts en 51 matchs. C'est rien d'ultra impressionnant dans le sens où c'est un gars de 19 ans. On sait qu'ils sont supposés être un peu plus dominants. Plus tu vieillis, plus tu es dominant dans cette ligue-là. Mais je pense que son impact ne se traduit pas seulement par les points. C'est un gars qui est créatif, qui est capable de voir le jeu. Grégoire me disait que son intelligence au jeu est vraiment au-dessus de la moyenne. Donc, c'est pour ça qu'il suscite de l'intérêt. L'entraîneur se fait poser beaucoup de questions par les recruteurs de la Ligue nationale sur ce joueur-là. Donc, habituellement, c'est bon signe. Est-ce que ça va venir par une signature de contrat? On sait que le Drakkar... Le Drakkar a quand même un long printemps peut-être devant lui. Donc, peut-être que les équipes vont attendre au repêchage pour pouvoir le garder dans le système pendant... En tout cas, c'est des manœuvres... Des manœuvres comptables plus qu'autre chose, mais ça va être à voir, c'est à surveiller. Puis avec le Mondial Junior qu'il a connu, je pense qu'il a montré à la planète hockey là, de quel bois il chauffait.
Oui, 11 points en 7 matchs là, avec la Tchéquie au Mondial Junior. Tu l'avais-tu remarqué un peu? Toi, tu étais là du côté de...
Ouais.
C'était où déjà? C'était en Suède?
À Göteborg.
Comment?
Göteborg,
donc.
Probablement que c'est pas la prononciation exacte, mais.
Assurément pas. Là, tu viens de faire de l'appropriation culturelle, on va en entendre parler. Merci beaucoup, Guillaume.
Mais pas ça dans l'extrait du podcast.
Non, c'est ça. Il n'y aura pas de balado la semaine prochaine, vous allez savoir pourquoi. Mais non, oui, c'était. Parce que c'est toujours plus difficile pour les espoirs de Bécomo, de Cap-Breton, de l'Abitibi de se faire voir, les dépisteurs. Faire 13 heures de route pour aller voir un espoir, faut que tu le veuilles. Fait que normalement, oui, on va aller voir un Raoul Boilard, justement, mais on ne va pas nécessairement avoir l'espoir qu'on va peut-être repêcher en 7e ronde. D'habitude, ça donne qu'on va le voir. Donc, est-ce que son championnat du monde junior va peut-être avoir plus d'impact que sa saison à Bécomo?
Ben, peut-être. Ça a peut-être été l'élément déclencheur. Parce que aussi au niveau de la confiance pour Melovski, il est revenu à Bécomo puis il se disait, tu sais, je viens de dominer contre les meilleurs joueurs de mon âge là, sur la scène internationale. Donc, ça a été un bon boost de confiance de son côté. 11 points, c'est le troisième rang des pointeurs au Mondial Junior. Puis ça, on n'a pas entendu parler plus qu'il faut. Mais il me disait, tu sais, j'ai commencé le tournoi sur le troisième, quatrième trio. On avait des petites responsabilités défensives. Il disait, après un match, on m'a monté sur le top 6, puis sur la première vague du jeu de puissance, il joue en compagnie de Jiří Kulich qui a complètement dominé ce tournoi-là. Donc, c'est certain que à gauche, à droite, tu vas ramasser des petites aides ici et là quand tu joues avec des joueurs de cette qualité-là, mais ça démontre aussi ses qualités de qui est capable de préparer des jeux puis de bien voir le jeu. Donc, je pense que ça a peut-être été l'élément déclencheur pour lui, puis au cours de la saison, ben, plus les dépisteurs vont continuer à le voir. Puis si le Drakkar continue, fait un bon bout de chemin en série, puis peut-être se rend à la Coupe Memorial, ben, ce sera pour lui encore juste du bonus à condition qu'il continue de livrer la marchandise comme il l'a fait là.
Donc, on peut lire ton texte sur le site de lnh.com. En plus de tout ce que vous faites, les gars, tout ce qui est là, on en a parlé. Il y a Raïs Savkovski qui un texte qui s'en vient dans les prochains jours. Donc, ce sera à suivre. Les gars, merci d'avoir été là. JF, Guillaume, aujourd'hui sur le balado.
Merci. Toujours un plaisir.
À bientôt.
Les auditeurs peuvent vous lire sur lnh.com. Ils peuvent aussi suivre tout ce qui se passe sur dans l'actualité de la LNH sur les réseaux sociaux, LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur X et sur Instagram. Notre prochain balado, ben, c'est mercredi prochain, donc abonnez-vous, suivez-nous pour être certain d'être averti lorsqu'il y a un nouvel épisode pour nous écouter lorsque vous êtes en déplacement. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On se reparle très bientôt!